RFI. Et voici aujourd'hui l'économie avec Dominique Bayard. Bonjour Dominique.
Bonjour Arnaud.
Au Brésil, le favori de l'élection présidentielle, Jair Bolsonaro, est aussi le candidat préféré des marchés. Le dernier sondage le donne en effet en tête du premier tour prévu dimanche et ça a rendu la bourse euphorique. Pourquoi donc les investisseurs se sont-ils entichés du candidat de l'extrême droite ?
Oui, eh bien, ce Trump tropical qui avoue sans complexe qu'il ne connaît rien à l'économie, n'a pas de solution au chômage, qui a pourtant doublé après 2 années de récession. Il n'a pas non plus de plan pour réduire la pauvreté, alors que le revenu par habitant a baissé en moyenne de 6%. Mais il a un conseiller, un ancien banquier ultralibéral formé à l'école de Chicago, qui lui a soufflé un programme presque révolutionnaire pour un pays où l'État est omniprésent. Il veut passer aux retraites par capitalisation pour éviter l'inflation des dépenses sociales et privatiser à grande échelle pour réduire le poids de la dette publique de 20%. Voilà le discours radical qui rassure les marchés.
Car la dette brésilienne a explosé ces dernières années.
Alors elle approchera l'an prochain la barre des 80% du produit intérieur brut, un niveau beaucoup trop élevé pour un pays à revenus intermédiaires. Cette dette insoutenable, c'est le symptôme de la dérive des finances publiques. D'un côté, les recettes fiscales tendent à se tasser à cause de cette croissance molle, mais aussi à cause de toutes les dérogations, toutes les niches accordées bon an mal an aux grandes et aux petites entreprises. Tandis que les dépenses contraintes, c'est-à-dire les salaires des fonctionnaires auxquels s'ajoutent les retraites, eh bien, elles ne cessent d'augmenter. Les pouvoirs publics empruntent donc toujours plus pour joindre les deux bouts et renoncent aux investissements dont le Brésil a pourtant tant besoin pour améliorer sa compétitivité. Il lui faut des routes, des infrastructures diverses, des services publics performants. Un exemple illustrant ce sous-investissement dans le domaine de la santé. Il y a bien au Brésil un accès universel aux soins, mais seulement 3 lits d'hôpital pour 1000 habitants, quand il y en a 4 pour 1000 à Cuba et 6 pour 1000 chez le voisin argentin.
Est-ce que les candidats à cette présidentielle ont un programme pour assainir les finances publiques ?
Eh bien, vous imaginez bien que le sujet est politiquement miné. Les Brésiliens ont très très mal pris le gel des dépenses décidé par le président sortant, Michel Temer. Leur parler d'austérité alors qu'ils se sont appauvris pendant la crise est politiquement inaudible et suicidaire. L'incendie qui a ravagé le musée national en septembre a été immédiatement attribué au manque de crédit et cela a provoqué la colère des cariocas. Alors pour les marchés comme pour de nombreux experts, la mère de toutes les réformes, c'est celle des retraites. Un projet que Michel Temer a dû abandonner quand il a été rattrapé par les affaires de corruption. Quel que soit le futur régime choisi, le plus urgent sera de repousser l'âge du départ. Il est en moyenne au Brésil de 55 ans. Le niveau des pensions est aussi remis en question à cause du vieillissement de la population et des généreux traitements octroyés aux cadres supérieurs de la fonction publique.
Et quelles sont les autres pistes préconisées ?
Eh bien, les économistes constatent tous que le problème numéro un du Brésil, le problème récurrent, celui qui alimente la faiblesse de la croissance, la rancœur des Brésiliens et l'insécurité, eh bien, c'est toujours les profondes inégalités de revenus. La moitié des richesses produites est captée par 10% de la population. Pour changer la donne, plutôt que d'augmenter les transferts, les experts conseillent de les réorienter. Car aujourd'hui, ce ne sont pas les plus pauvres qui en bénéficient le plus, mais la classe moyenne supérieure, le groupe qui a les bons relais pour défendre ses intérêts en termes de retraite ou d'impôts.
En bref, à cause du Brexit, la banque japonaise Nomura s'apprête à délocaliser de Londres à Paris une bonne part de ses activités européennes.
Alors les négociations sont encore en cours. Cette intention témoigne de l'attractivité de la capitale française. Elle a déjà séduit JP Morgan, Bank of America, HSBC et les deux françaises Société Générale et BNP Paribas qui jusqu'à maintenant étaient à Londres pour leurs activités européennes.
Le bout du tunnel est en vue pour l'économie sud-africaine d'après les économistes de la banque Goldman Sachs.
Grâce aux réformes menées par le président Cyril Ramaphosa, l'Afrique du Sud devrait renouer l'an prochain avec une croissance vigoureuse proche de 3%. C'est la prévision la plus récente et la plus optimiste alors que l'activité ralentit, l'économie sud-africaine est entrée en récession au second trimestre.
Merci Dominique Bayard.